Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Philippe Jacques. Il est docteur en biochimie, professeur, chercheur à Polytech Lille. Et il vient nous parler aujourd'hui d'un dispositif, un projet Interreg qui s'appelle PhytoBio. Bonjour Monsieur Jacques.
Bonjour.
Donc c'est un projet qui a déjà quelques années, on va dire, de fonctionnement et qui est dans sa phase d'aboutissement.
Oui, tout à fait. Donc c'est un projet qui a été initié en 2010 et donc qui se termine mars 2014. Donc on est effectivement dans la phase tout à fait finale de ce projet.
C'est un projet Interreg. On peut rappeler le principe d'un projet Interreg?
Oui, tout à fait. Donc Interreg, c'est un financement européen qui finance des projets, qui ne sont pas nécessairement des projets de recherche d'ailleurs, hein, pour des régions avoisinantes de part et d'autre d'une frontière. Donc ici, on est dans ce qu'on appelle les projets Interreg 4, qui rassemblent en fait, dans notre cas, des universités notamment, qui travaillent en Flandre, en Wallonie et dans la région Nord-Pas-de-Calais.
Donc le projet est porté par l'Université Lille 1, avec bien sûr en tête de pont un ProBiogem, qui est une structure d'un laboratoire.
Oui, tout à fait. C'est un laboratoire qui a été créé en 2006 et qui est donc le porteur, effectivement, de ce projet depuis 2010.
Et autour de ce projet, des partenaires, on peut peut-être les mentionner?
Oui, tout à fait. Donc, on a un certain nombre de partenaires de l'autre côté de la frontière, hein, en Belgique. On a Jean Blou Agrobiotech, on a l'Université de Gand. On a deux centres, en fait, en Flandre orientale et en Flandre occidentale, qui sont plutôt des centres de recherche appliquée, qui font des tests au champ. On les appelle le PCG et Inagro. Et du côté français, on travaille avec l'ULCO, donc l'Université du littoral Côte d'Opale. Et en même temps, on a aussi un partenaire qui est l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. On travaille aussi, en fait, comme partenaire associé avec le Gap Nord.
Voilà, donc Monsieur Philippe Jacques, ce nom PhytoBio donne un peu l'idée, la tendance. Hein, on est dans le phytosanitaire et le biologique. Donc, qu'apporte ce projet, on va dire, à la communauté scientifique et aussi à la communauté humaine?
Oui, alors ce projet, en fait, l'initiation de ce projet, c'est un peu un ensemble de chercheurs qui travaillaient de façon, je dirais, en collaboration, mais bilatérale. Donc certains chercheurs de Jean Blou travaillent avec Reims, d'autres de Gand travaillent avec Jean Blou, nous travaillons avec Jean Blou, etc., etc. Et on avait comme thématique commune d'étudier des produits qui pourraient, à un moment ou à un autre, devenir ce qu'on appelle des biopesticides, donc des produits d'origine biologique qui vont remplacer les pesticides chimiques pour lutter contre ce qu'on appelle les prédateurs des plantes. En l'occurrence ici, il s'agissait des champignons qui sont responsables soit de la pourriture des racines, de la pourriture des semences, ou alors de la pourriture des fruits et des légumes après la récolte. Et donc, on a décidé de travailler tous ensemble pour voir si on ne pouvait pas mettre en évidence des molécules d'intérêt qui pourraient être à terme être appliquées dans l'agriculture biologique, mais aussi dans l'agriculture traditionnelle pour remplacer les pesticides chimiques.
Alors quand on parle de pesticides chimiques, tout de suite ça fait peur. Et effectivement, ça fait très longtemps qu'on en utilise dans la région et on en voit les effets, notamment pour la qualité de l'eau dans certains bassins.
Oui, tout à fait. Mais je dirais que moi, ce qui m'a le plus sensibilisé encore, puisque ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, c'est les derniers résultats des analyses qui montrent que finalement, ces pesticides sont surtout très dangereux aussi pour la santé des agriculteurs eux-mêmes, puisqu'ils sont en contact, eux, avec des concentrations relativement élevées, hein, puisqu'ils se chargent évidemment de la dispersion. Et donc, ces dernières années, on a montré que certains de ces pesticides avaient des effets, de type induction de cancer, mais aussi des effets sur les maladies dites neuronales. Donc, je pense qu'il est grand temps qu'on puisse réduire l'utilisation de ces pesticides chimiques pour l'agriculteur lui-même aussi.
Voilà, donc en fait, il y a deux problématiques. Il y a les pesticides et les nitrates, donc les dérivés nitrés qui sont utilisés comme fertilisants.
Oui, oui. Là, on n'a pas travaillé dessus, hein, honnêtement. Nous, on était plutôt sur l'idée comment lutter de façon plus biologique et plus propre, meilleure pour l'environnement et pour la santé, humaine d'une façon générale, contre les pathogènes, et essentiellement les champignons pathogènes des plantes.
Est-ce que les agriculteurs sont sensibles à ces problématiques-là qui les intéressent à la fois pour, bien sûr, les personnes qui vont avoir ces produits, mais aussi pour eux-mêmes qui travaillent au contact de ces produits qui sont dangereux?
Je pense que ça évolue. Il y a 10 ans, je ne vous aurais pas dit la même chose. Je pense quand même qu'il y a eu une évolution et une prise de conscience. Et puis alors, si on va du côté de l'agriculture biologique, là, on est face à des agriculteurs qui, eux, n'utilisent évidemment pas ces pesticides chimiques, mais par contre sont demandeurs de solutions pour lutter contre les prédateurs. Parce que, les prédateurs, ils sont là. Hein. Donc, il faut quand même, si on veut réussir à obtenir des rendements raisonnables, pouvoir lutter d'une façon ou d'une autre contre ces prédateurs. Donc moi, ce qui m'a fortement surpris, par exemple, c'est en 2010, quand j'ai commencé ce projet. En tant que coordinateur, je suis allé le présenter dans différentes conférences, notamment face à des agriculteurs, et j'ai vu que la demande était énorme. Il y a vraiment une demande, parce qu'il y a très peu de produits de ce type-là qui sont aujourd'hui homologués et autorisés pour l'agriculture biologique.
Alors c'est vrai que dans la région Nord-Pas-de-Calais, il y a des labels, etc. Il y a aussi une demande nouvelle d'une certaine catégorie de clientèle, on va dire, de public à acheter et à consommer des produits biologiques. Pour eux, pour les agriculteurs, ça représente certainement un nouveau développement de leur activité économique.
Oui, c'est vrai, mais c'est lent. C'est lent. La proportion d'agriculteurs biologiques aujourd'hui est quand même très très faible, particulièrement en France d'ailleurs. Et donc, quand on regarde un peu d'un point de vue économique, si on veut sortir aujourd'hui un produit de type biopesticide et espérer ne l'utiliser que dans l'agriculture biologique, c'est impossible. Le coût de développement du produit va être tellement élevé que le marché de l'agriculture biologique est largement insuffisant pour pouvoir amortir ce coût. Donc, c'est une bonne chose, de toute façon, qu'on puisse, y compris dans l'agriculture traditionnelle, remplacer les pesticides chimiques par des produits biologiques. Mais c'est vrai aussi que pour l'agriculture biologique, c'est un obstacle que le marché soit si faible pour qu'on pousse à développer énormément de choses.
Donc, M. Philippe Jacques, votre découverte, on va dire, ces travaux qui ont débouché donc sur un produit, a quand même la difficulté à gérer, c'est que pour être homologué, il faut du temps.
Oui, il faut du temps et il faut de l'argent. Donc, si vous voulez, maintenant, on termine une phase de recherche qui a duré 20 ans. Il y a 20 ans, moi, je travaillais déjà un peu sur cette thématique. Et il a fallu 20 ans pour pouvoir, d'une part, trouver des nouvelles molécules, analyser un peu leur structure, leur mode d'action, démontrer en tout cas qu'elles fonctionnaient dans des conditions au champ, en serre, proches de ce qu'on fait dans l'agriculture traditionnelle ou dans l'agriculture biologique. Et là maintenant, on est arrivé à ce stade-là. On pourrait se dire, tant mieux, les agriculteurs biologiques ou les agriculteurs d'une façon générale vont avoir ces molécules dans quelques jours, chez eux. Eh bien, c'est pas vrai, puisque en fait, là maintenant, on va commencer ce qu'on appelle la phase d'homologation. Et donc ça, c'est un dossier qui prend entre 4 à 5 ans, qui coûte 1 à 2 millions d'euros au moins. Il faut donc trouver des partenaires qui sont prêts à se lancer dans cette aventure. Et donc, on espère en réalité mettre un produit sur le marché en 2019-2020.
Ces partenaires, vous les avez trouvés ou faites encore appel?
Alors, il y a une petite start-up qui s'est créée à partir du laboratoire Probiogem, qui s'appelle Lipofabrique. C'est la société qui va produire les molécules. Ça, c'est une première étape. Mais ce n'est pas la société qui va les vendre. Cette société-là, elle va en fait les vendre à un autre partenaire qui, lui, est un distributeur de produits de type phytosanitaire et qui va se charger de l'homologation. Et donc, effectivement, les produits semblent intéresser pas mal d'entreprises et on était contacté par un certain nombre d'entreprises de différentes tailles d'ailleurs et de différentes origines qui sont, semble-t-il, assez prêtes à se lancer dans l'aventure.
Donc ce produit qui est issu de la région Nord-Pas-de-Calais, mais au-delà aussi, dans le cadre de ce projet Interreg, l'Eurorégion, on va dire, hein, il vise clairement l'export.
Alors, c'est certain qu'on ne pourrait pas se contenter de la région Nord-Pas-de-Calais, je dirais, pour vendre ce produit. Le marché de ce produit, il sera mondial, à coup sûr, et il devra l'être si on veut amortir le dossier d'homologation. Maintenant, c'est vrai que les travaux du projet Interreg Phytobio ont visé essentiellement, dans un premier temps, à démontrer que ce produit ou ce type de produit était efficace contre des maladies que l'on rencontre dans des cultures qui sont réalisées ici dans le Nord, quoi. Et donc, ce sera déjà une première solution pour ces cultures-là. Ensuite, certainement, ça va s'étendre évidemment à l'ensemble de la planète.
Si on considère le champ de l'ensemble des produits phytosanitaires, en termes de traitement, votre produit correspond à un pourcentage de combien des problèmes ?
Ah, ça c'est difficile à dire. Comme ça, j'aurais peut-être un peu dit mal. Disons que dans les prédateurs des cultures, il y a des virus, il y a des insectes, il y a des bactéries, il y a des champignons. Bon, il y a aussi des vers, par exemple. Donc il y a quand même toute une série de prédateurs possibles. Nous, on s'est focalisé sur les maladies dues à des champignons. Donc voilà, ça limite déjà un peu le champ. Du côté des champignons, bien sûr, là, on a pu démontrer, notamment dans le cadre du projet Interreg, l'efficacité contre des pathogènes de la salade, des pathogènes du poireau, des pathogènes des céréales, donc du blé, et des pathogènes de la vigne. Donc avec cet ensemble-là, on voit bien qu'on a déjà quand même une gamme suffisamment large pour espérer avoir un marché suffisamment intéressant pour développer ce genre de produit, mais ce n'est qu'un début. On a bien l'intention de continuer à ouvrir la gamme et regarder si, pour toute une série de pathogènes de type fongique, donc champignons, vis-à-vis de toute une série de cultures, nos produits ne pourraient pas être efficaces.
Ce qui suppose que vous devez encore rechercher.
Alors, oui, la recherche ne s'arrête jamais, hein, c'est clair. Il y a deux choses, même, je pense, qu'il faut continuer à chercher. Il faut, d'une part, il va falloir aussi optimiser la production de ces molécules, parce que la plupart du temps, si vous voulez, quand vous avez un produit d'origine biologique, son coût de production est très souvent beaucoup plus élevé que le coût de production d'une molécule de synthèse chimique. Et il va falloir, malgré tout, même si on voit tous les avantages de ce type de produit par rapport aux pesticides, l'agriculteur ne sera quand même pas prêt à mettre 10 fois ou 100 fois plus pour obtenir ce type de produit. Donc il faut qu'on arrive à un prix concurrentiel. Donc il y a encore de la recherche à faire pour essayer de réduire au maximum le prix de production de ce type de molécules. Après, je pense qu'il faut continuer à en trouver d'autres, parce que d'abord, pour viser éventuellement des maladies qu'on n'aurait pas visées à terme, c'est une recherche continue, effectivement.
Est-ce qu'on peut dire que le prix peut baisser au fur et à mesure que ce produit se développe économiquement ?
Oui, simplement, il y a un simple réflexe quantitatif, si vous voulez. Si vous parvenez à produire des quantités très importantes, effectivement, vous réduisez le coût de production, uniquement par l'aspect quantitatif, quoi.
Alors, Monsieur Fille, Jacques, vous avez expliqué l'intérêt de ce produit. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'impact des nuisances de ce produit, par contre, par rapport aux nuisances des produits classiques ?
Tout à fait. Ça a été aussi l'objet d'une partie du travail fait dans le cadre du projet Interreg, avec des collègues d'ailleurs de l'Université de Lille. Et on a étudié ce qu'on appelle l'écotoxicité et la toxicité de ces molécules, parce que quand je vous parlais tout à l'heure d'un dossier d'homologation, ce qui coûte très cher en réalité, c'est de tester l'homologation, enfin la toxicité et l'écotoxicité de la molécule dans toute une série de tests différents. Et donc nous, on a fait les premiers tests, et ces premiers tests montrent que les familles de molécules que l'on a mis en évidence sont plusieurs centaines à plusieurs milliers de fois moins toxiques que les molécules de référence antifongiques, donc fongicides utilisés aujourd'hui en agriculture. Et le deuxième avantage, c'est qu'en plus, on pense pouvoir les utiliser à des concentrations plus faibles que les produits chimiques actuels. Donc, en plus de l'efficacité qui a été démontrée dans le cadre du projet, le fait de démontrer qu'elles sont beaucoup moins toxiques et utilisées à des concentrations plus faibles, c'est clairement un plus pour leur développement.
Donc on a bien compris l'intérêt de ce produit. Est-ce que vous vous situez dans une dynamique mondiale et est-ce que le Nord-Pas-de-Calais est bien placé pour occuper une bonne place ?
Alors, y a un dynamisme ici qui nous a permis quand même à la fois d'une part de coordonner ce projet, d'obtenir les financements, de mettre en place une petite société start-up. Donc on a été beaucoup aidé par toute une série de structures. Et donc je pense que oui, il n'y a pas de raison que la région Nord-Pas-de-Calais ne soit pas une région où on développe ce genre de produits et d'initiatives.
Donc on a parlé tout à l'heure, bien sûr, de trouver peut-être de nouveaux partenaires et des financements. Quels seraient également vos autres souhaits pour cette année ?
Pour cette année, je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à faire aussi, c'est effectivement continuer la recherche pour réduire le coût de production. Et puis après, on travaille aussi sur d'autres molécules qui pourraient avoir d'autres applications intéressantes et qui sont, je dirais, dans le même type de molécules que celles qu'on a mis en évidence dans le cadre de ce projet, quoi. Donc on a beaucoup de pistes différentes dans lesquelles on espère aboutir, pour des applications d'ailleurs qui pourraient ne pas concerner que le phytosanitaire. On a aussi des applications en agroalimentaire et peut-être même des applications dans le domaine plus dermatologique et pharmaceutique.
Donc ce projet fait partie de l'activité de Polytech à Lille, qui est une grande école lilloise rattachée à l'université Lille. Cette réflexion sur cette thématique, ça représente combien de l'activité de Polytech ? C'est quelque chose qui se développe ? Comment se...
Alors le laboratoire ProBiogem est un laboratoire quand même assez important au sein de Polytech. Alors que puis-je vous dire ? Le laboratoire ProBiogem rejoint, on a créé en fait à partir du laboratoire ProBiogem une grosse structure qui s'appelle l'Institut Régional de Recherche en Biotechnologie Agroalimentaire, l'Institut Charles Violette. Et donc, on va commencer, je pense, à avoir un poids très important grâce à ça, et grâce à tout ce travail qui a été fait notamment par Pascal Duster, qui est le directeur actuel du laboratoire, pour construire cet institut. On va commencer à avoir un poids important. Et je pense que ce genre de résultats montre à quel point, dans le domaine de la biotechnologie et de l'agroalimentaire, on a aussi notre carte à jouer ici, en région Nord-Pas-de-Calais.
Est-ce qu'on peut dire que c'est de la chimie ?
Alors, quelle est la différence effectivement entre une molécule qui est d'origine de la synthèse chimique et une molécule qui est d'origine biologique ? La différence principale, enfin une des différences potentielles, c'est le côté biodégradable. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Alors attention, quand on développe un produit biologique comme ça qui va servir de biopesticide, il ne faut pas qu'il soit dégradé tout de suite, parce que sinon il ne va pas avoir d'efficacité. Donc il faut trouver une molécule qui est à la fois biodégradable et qui ne va pas s'accumuler dans l'environnement, ce qui est le risque d'un certain nombre de pesticides chimiques qui sont dégradés beaucoup plus difficilement, et en même temps qu'elle ne le soit pas trop vite pour qu'elle puisse avoir cette efficacité. Et c'est un peu justement le lot de nos molécules, de ces fameux lipopeptides qu'on a mis en évidence, quoi, qui ont ce caractère biodégradable, mais pas trop rapidement pour pouvoir avoir l'efficacité adéquate et quand même ne pas persister dans l'environnement.
Voilà, bien, je pense qu'on a mieux compris les enjeux de ce beau projet Interreg. Merci Monsieur Philippe Jacques et bonne continuation à votre laboratoire.
Merci de nous avoir reçus.
écoutez Lille Info sur Radio Campus 106,6 FM. Alors, une spéciale dédicace à l'université, bien sûr, et notamment à l'espace culture de l'Université Lille, qui présente actuellement le travail de Laurent Goldring, une exposition qui est la 41e de Laurent Goldring, donc, qui vous propose des boucles vidéo en noir et blanc et en couleur. Donc le thème de ces boucles, eh bien, c'est le corps humain, hein, le corps, le crâne, voilà, le corps nu, le corps habillé. Et donc vous pouvez voir l'ensemble de ce dispositif actuellement et jusqu'au 28 février à l'espace culture. L'entrée est libre et c'est très intéressant. C'est une exposition qui a une belle unité, on va dire, qui demande de s'installer tranquillement. Il y a des bancs pour s'asseoir et pour méditer sur la place du corps face à soi et la place du corps peut-être dans la société. Voilà, Laurent Goldring, donc, j'ai eu la chance d'ailleurs hier de participer à son workshop qui avait lieu à Valenciennes. Et donc c'est à l'espace Pasolini qui était partenaire aussi de cette opération. Merci à toute l'équipe de l'espace Pasolini à Valenciennes, 2 rue Salle Lecomte. Voilà, et puis pour information, sachez que l'espace Pasolini a une programmation très intéressante. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site web, notamment autour des musiques du monde au mois de mai, mais aussi plein d'événements entre les deux. Donc espacepasolini.fr, voilà, et on peut aussi téléphoner au 03 27 32 23 00. Voilà, sinon à l'espace culture, c'est gratuit cette exposition. C'est ouvert, on va dire, tous les jours entre 10h et 18h. Pour résumer, hein, l'entrée est libre. Profitez-en. Pour ceux qui ne connaissent pas l'espace culture, bien c'est très simple, hein, vous prenez le métro Cité Scientifique Professeur Gabillard, vous traversez, c'est à gauche à 100 mètres, voilà.